Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Aimez-vous écouter des histoires? Jésus en a raconté beaucoup. L'une d'entre elles, d'ailleurs, va faire l'objet de notre sujet de discussion aujourd'hui.
Il s'agit de la parabole du vigneron. Dans un instant, j'accueillerai Robert qui va nous aider à mieux comprendre les leçons spirituelles que Jésus voulait transmettre à travers cette parabole. Mais d'abord, cédons la parole à Sandra pour la lecture de cette histoire.
Un homme avait une propriété. Il y planta une vigne, l'entoura d'une haie, y creusa un trou pour le pressoir et y construisit une tour pour la surveiller. Après cela, il alloua à des vignerons et partit en voyage. À l'approche des vendanges, il envoya ses serviteurs auprès de ces vignerons pour recevoir le produit qui lui revenait. Mais les vignerons se précipitèrent sur ses serviteurs. L'un d'eux fut roué de coups, un autre fut tué, un troisième assommé à coups de pierre. Le propriétaire envoya alors d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais ils furent reçus de la même manière par les vignerons. Finalement, il leur envoya son propre fils en se disant « Pour mon fils, au moins, ils auront du respect. » Mais dès que les vignerons aperçurent le fils, ils se dirent entre eux « Voilà l'héritier, venez, tuons-le, et nous récupérerons son héritage. » Ils se jetèrent donc sur lui, le traînèrent hors du vignoble et le tuèrent. Quand le propriétaire de la vigne viendra, comment agira-t-il envers ses vignerons? Ils lui répondirent, il fera exécuter sans pitié ces misérables, puis il confiera le soin de sa vigne à d'autres vignerons qui lui donneront sa part de récolte en temps voulu.
Merci Sandra. Vous venez d'écouter la lecture de la parabole du vigneron, trouvée dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21, les versets 33 à 41. Le moment est venu d'accueillir Robert. Bonjour.
Bonjour Yann, et bonjour à tous. Lors de nos deux dernières émissions, nous avons compris que cette parabole rappelle l'histoire du peuple d'Israël. Dieu avait conduit son peuple jusque dans la terre promise afin d'assurer son bien-être. Toutefois, dans ce nouveau pays, ce peuple avait voulu jouir des ressources de la terre sans rendre un culte sincère à Dieu, sans non plus obéir à sa loi. Alors Dieu avait envoyé des prophètes pour ramener ce peuple à lui. Mais tout comme pour les serviteurs de la parabole, ces envoyés furent mal accueillis. Certains même furent mis à mort. Alors, nous devons nous poser la question suivante. Est-ce que je veux jouir des bonnes choses que Dieu donne sans vouloir vivre sous son regard, sans lui exprimer ma reconnaissance? Ou bien, est-ce que je respecte les gens que Dieu m'envoie pour m'enseigner la parole?
Et aujourd'hui, nous arrivons à la fin de l'étude de cette parabole. Elle nous parle aussi du fils du propriétaire, qui l'envoie, dans l'espoir de régler tous ses problèmes liés à la vigne.
Oui, le propriétaire de la parabole est persuadé que les vignerons vont respecter son fils. Alors il l'envoie pour discuter avec eux et réclamer sa part de la récolte.
Mais les vignerons ne l'ont pas du tout écouté. Ils l'ont même tué.
Oui. Les vignerons ont saisi là une occasion de s'emparer du vignoble en se débarrassant du véritable héritier. Toutefois, ils allaient payer cher leur méchanceté, car la justice de l'époque l'exigeait. Les meurtriers devaient être exécutés.
Mais si cette parabole dépeint l'histoire du peuple d'Israël, comment comprendre ces versets?
À travers cette parabole, Jésus parle de lui et de ce qui va lui arriver. Mais dans un premier temps, il révèle sa véritable identité. Il est plus que les prophètes. Il est le Fils de Dieu.
Cette notion peut être mal comprise, même de nos jours. Certains la trouvent d'ailleurs choquante.
Et pourtant, le Nouveau Testament atteste que cela est vrai. En fait, selon les évangiles, Dieu lui-même, à plusieurs reprises, déclare d'une voix retentissante venue des cieux, « Celui-ci est mon Fils. » Quel mystère merveilleux! Jésus est extraordinaire. Il est Dieu avec nous. Il est Dieu devenu homme. En tant que fils de Dieu, nous devons le respecter. Nous devons l'écouter et lui faire confiance, car il en est digne.
Mais les hommes l'ont tué, ils l'ont crucifié.
Et Jésus savait que ces choses arriveraient. En fait, il a raconté cette parabole seulement 2 ou 3 jours avant sa crucifixion. Cette parabole contient donc des éléments prophétiques, car Jésus s'adressait à ceux qui complotaient déjà sur son arrestation. Il voulait qu'ils se remettent en question, il souhaitait les avertir. Toutefois, il connaissait leur cœur endurci. Il savait que le cours d'événements ne changerait pas. D'ailleurs, selon l'évangile de Matthieu, chapitre 21, verset 45, les autorités religieuses qui s'opposaient à Jésus savaient pertinemment que Jésus parlait d'eux, car nous lisons « Après avoir entendu ces paraboles, les chefs des prêtres et les pharisiens comprirent que c'était eux que Jésus visait. » Malgré tout, ces personnes dites religieuses ont livré Jésus entre les mains de la justice romaine. Puis, ils réussirent, sous de faux prétextes, à la convaincre qu'il soit crucifié.
Si cette parabole contient des éléments prophétiques, que signifie alors la fin? La scène où le propriétaire annonce qu'il va exécuter les vignerons pour donner le vignoble à d'autres.
Certains commentateurs pensent que la destruction de la ville de Jérusalem par l'armée romaine en l'an 70 correspond à l'accomplissement de cette prophétie. Quoi qu'il en soit, je pense que cette parabole contient une leçon solennelle que nous devons tous prendre au sérieux.
Quelle est-elle?
Quiconque refuse l'autorité de Jésus, quiconque le rejette et ne prend pas au sérieux ses paroles, sera jugé et finira par ne plus jouir des privilèges que Dieu lui offre. En d'autres termes, toute personne qui n'honore pas Jésus n'héritera jamais de la vie éternelle.
Voilà un enjeu de la plus haute importance. Il s'agit d'une question de vie ou de mort.
Tout à fait, Yann. Et c'est pourquoi il est primordial de réfléchir sérieusement à ces questions et de se décider avant qu'il ne soit trop tard. Quant au fait que le propriétaire va donner son vignoble à d'autres, j'y vois là une bonne nouvelle.
Laquelle?
Jusqu'alors, Dieu avait accordé au peuple d'Israël des privilèges considérables. Toutefois, ce peuple ne s'était pas montré à la hauteur. Et à présent, Jésus, en annonçant la bonne nouvelle de Dieu, appelle tout homme, toute femme, à former un nouveau peuple. Un peuple cette fois-ci constitué de personnes de toute nation, de toute tribu et de toute langue. Alors, quel que soit votre arrière-plan ou votre nationalité, quelle que soit votre race ou votre niveau social, vous pouvez faire partie de ce peuple et jouir de tous les bienfaits et privilèges que Dieu vous accorde.
Mais comment faire partie de ce nouveau peuple?
Tout simplement, en reconnaissant que Jésus est l'envoyé de Dieu par excellence, qu'il est le Fils de Dieu, et en voulant le suivre, en voulant avoir confiance en Jésus, en l'adorant, et en se soumettant à lui.
Merci Robert. Cette parabole représente un avertissement solennel. Allons-nous choisir le destin réservé aux mauvais vignerons ou allons-nous accueillir Jésus comme notre sauveur? Nous arrivons à la fin de cette courte série sur la parabole des vignerons et nous remercions Robert pour sa participation durant ces 3 émissions.
Merci Yann pour votre invitation et au revoir à tous.
Nous remercions Robert pour sa participation aujourd'hui. Nous allons à présent passer à notre courte méditation biblique. Nous nous pencherons sur la première épître de Jean. Sandra va nous lire au chapitre 2, les versets 15 à 17. Ensuite, elle cédera la parole à Claude, qui nous fera part de ses réflexions.
N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire les regards, et l'orgueil qu'inspirent les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement.
Comment comprendre cette exhortation à ne pas aimer le monde? Cela signifie-t-il que nous n'avons plus le droit de contempler un beau paysage ou le coucher du soleil, ou même de savourer un bon repas? Cela veut-il dire que nous ne pouvons pas écouter de la musique ou aller au cinéma, ou que nous n'avons plus le droit de participer à des activités sportives, de faire de la danse ou de pratiquer un art? Et je pourrais continuer cette liste. En fait, Jean définit l'amour pour le monde dans le verset qui suit. Il ne s'agit pas de l'amour pour les merveilles que Dieu a créées, il y en a tant. Non, il s'agit plutôt de la soif de l'homme à utiliser les événements, les circonstances, les éléments mis à sa disposition pour tromper, tricher ou vivre dans l'immoralité. En profitant de la création de Dieu, allons-nous l'aimer davantage ou allons-nous au contraire le mépriser ? Jean évoque les mauvais désirs. Il parle de la soif de paraître et de l'orgueil. Si ces objectifs nous motivent pour briller dans le monde, alors nous avons choisi les mauvaises priorités et nous poursuivons le mal. Aimer Dieu, c'est lui accorder la première place dans notre vie. C'est faire de notre relation avec lui une priorité, notre préoccupation première. Aimer Dieu, c'est l'écouter et lui obéir. Aimer le monde, c'est faire de la poursuite d'activités vaines et d'idéaux mondains une priorité. Alors que ces choses ne durent pas, tout passera, tout périra. Aimer le monde, c'est aussi avoir la soif obsessive de remplacer Dieu. Aimer le monde, c'est lui désobéir en vivant dans l'immoralité. C'est avoir recours à des rapports sexuels en dehors du mariage. Aimer le monde, c'est nourrir son orgueil, c'est soigner son apparence, c'est faire avancer ses propres intérêts au point qu'ils deviennent nos préoccupations premières. Demeurons vigilants. Ce que nous entendons a une influence sur nous. Ce que nous voyons peut déclencher de mauvais désirs et attiser des passions trompeuses. Et pourtant, le monde ne durera pas. Il est passager et tellement imparfait. Dieu, quant à lui, reste éternel et si parfait. Alors, aimons Dieu, recherchons sa volonté. Lui plaire et lui obéir doivent être notre priorité. À travers les versets lus, l'apôtre Jean veut diriger nos cœurs vers cette évidence. Vraiment, Dieu est ce qu'il y a de meilleur.
Merci Claude de nous avoir éclairés sur ce choix que nous devons faire. Aimer Dieu ou aimer le monde. Que Dieu rayonne dans nos cœurs afin que nous puissions discerner si nous suivons les bonnes priorités dans notre vie. Chers auditeurs, nous vous remercions pour votre écoute et espérons vous retrouver la prochaine fois. En attendant, je vous dis au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.